Nous allons parler de la mort de Jésus. La mort de Jésus, alors j'ai quatre lectures à faire. La première est dans Matthieu 27, 45 à 55. La deuxième lecture, donc je vais avoir besoin d'aide. La deuxième lecture, je vais demander à Karl de préparer Marc 15, 33 à 44. Troisième lecture, je vais demander à Thibaut de préparer Luc 24, 44 à 49. Et enfin, quatrième lecture, Jean 19, 25 à 30. Je vais demander à Jessica de préparer Jean 19, 25 à 30. Donc la première lecture, Matthieu 27, 45 à 55. À partir de midi et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, le pays entier fut plongé dans l'obscurité. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », ce qui veut dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En entendant ces paroles, certains de ceux qui étaient là s'exclamèrent. Il appelle Élie. L'un d'entre eux courut aussitôt prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et piqua au bout d'un roseau. Il la présenta à Jésus pour qu'il boive, quand les autres lui dirent « Attends, on va bien voir si Élie vient le délivrer. » À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux. De haut en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Des tombes s'ouvrirent et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Ils quittèrent leur tombeau et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de personnes les virent. En voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante et dirent « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Il y avait aussi là plusieurs femmes qui regardaient de loin. C'était celles qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour être à son service. Marc 15, 33, 44. Karl, si tu peux te lever. Merci. Alors, Luc 24, 44 à 49. Luc 24, 44 à 49.
Témoin de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon père.
Jean 19, 25 à 30. Amen, merci. Nous allons prier. Seigneur, nous t'exaltons, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, ta puissance, Seigneur, ta présence dans nos vies, Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre un culte agréable, Seigneur. Nous savons que tu es trois fois saint, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, nous demandons, Seigneur, que les trois faces du Christ soient inscrites sur chacun d'entre nous, Seigneur. Le chemin, la vérité, la vie, Seigneur. Que chacun reçoive le chemin, la vérité, la vie et que ton plan merveilleux puisse se traduire dans la vie de chacun d'entre nous. Nous glorifions ton saint nom, Seigneur, et nous savons, Seigneur, que les flèches enflammées de l'ennemi sont arrêtées. Au nom de Jésus, que tu sois élevé, Papa. Gloire te soit rendue. Amen. Nous allons ce matin voir, d'après les quatre évangiles, comment Christ meurt, et on va essayer de ne pas toucher la résurrection, parce que la résurrection, c'est ce que nous verrons dimanche prochain. Mais comme dans les psaumes, nous allons monter. Dans les psaumes, il y a ce qu'on appelle le chant des montées. Et le chant des montées consiste à lire des psaumes pour monter vers Jérusalem. Parce que vous savez, pour se rendre à Jérusalem, les juifs, par tradition, avaient l'habitude d'aller une fois par an à Jérusalem, et donc ils montaient. Et pour monter en fait vers Jérusalem, il fallait faire certains efforts, et pour faire ces efforts, les psaumes étaient utiles. Dans la même image, on peut voir Moïse qui monte vers le mont Sinaï. Tout ce que nous allons faire ce matin, c'est monter vers Dieu, que le Seigneur nous parle. Un petit mot aussi sur les auteurs ce matin. Les auteurs des quatre évangiles, c'est toujours important de voir comment l'Esprit Saint a agi sur des personnes totalement différentes. Et des fois, on peut être surpris de voir que quelqu'un comme Matthieu ou Lévi était un apôtre du Christ, faisait partie de l'un des 12 apôtres. Marc, aussi appelé Jean, était cousin de Barnabas. Il n'était pas apôtre, Marc, qui a écrit l'évangile. On peut penser, on peut être surpris de voir que le Seigneur utilise des gens qui sont arrivés bien après, mais qui ont été inspirés par l'Esprit. Donc dans Colossiens 4, on peut voir qui est Marc. Ensuite, on a Luc. Luc, une autre surprise, Luc est un médecin. Toujours dans Colossiens 4, on peut le lire. Luc a écrit l'évangile de Luc, mais il a aussi écrit Actes des apôtres. Enfin, Jean, qu'on ne présente plus, qui est un des apôtres, qui a eu à écrire l'évangile de Jean, qui a écrit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, mais qui a aussi écrit Apocalypse, un livre qui donne des maux de tête. Et pourtant, il n'est pas très compliqué, ce livre d'Apocalypse, mais c'est un livre de révélation. Vous l'avez bien compris, l'auteur principal des évangiles qui sont au centre de la Bible, c'est l'Esprit-Saint. Un homme ne peut pas écrire ces choses. Ce n'est pas possible. Essayez d'écrire des choses que vous n'avez pas vécues, par exemple. C'est très compliqué. Des choses qu'on vous a rapportées. C'est extrêmement compliqué. Mais voilà, Dieu, dans sa grâce, va mettre sur ces hommes en exécution son plan. Pour comprendre le message de ce matin, encore une fois, il est très important de lire la Bible tous les jours. Chers amis, bien-aimés, c'est extrêmement important de lire la Bible tous les jours parce qu'à un certain moment, si vous ne lisez pas la Bible tous les jours, il y a des messages que vous ne comprendrez pas. Ce sera très difficile de comprendre. Parce que ce matin, je vais utiliser beaucoup de textes. Et tous ces textes, il y en a que vous connaissez, peut-être il y en a que vous connaissez moins bien, mais il est important toute la semaine de lire plusieurs chapitres de la Bible pour pouvoir avoir un accès aux messages qui sont apportés, parce que vous le voyez vous-même, nous ne pouvons pas lire tous les textes ce matin, compte tenu du temps. Et même si on avait le temps, ça nous prendrait des jours à lire ces textes, parce que dans les textes, il y a des questions, dans les questions, il y a des interprétations, et dans les interprétations, on repart dans les textes bibliques, puisque la Bible s'interprète par elle-même. Important d'avoir en arrière-plan le Genèse 2, lorsque Dieu dit à l'homme, « Si tu manges du fruit défendu, tu vas mourir. » Faites un lien entre le premier Adam et le vrai Adam qu'est Christ, et vous verrez que lorsque Christ dit, « Vous sondez les Écritures qui parlent de moi, mais vous ne me voyez pas. » Lorsqu'on dit « Tu mourras », nous lisons Adam le premier, mais en fait, prophétiquement, il faut lire le deuxième Adam. Dieu annonce la mort de son fils. Il y a un autre texte qui peut être aussi utile, c'est Genèse 2, 24, où il est dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme, et ensemble ils formeront une seule chair. » Lorsqu'on lit ce texte, d'après le premier Adam que nous sommes, nous voyons que Dieu va instituer le mariage. Mais lorsqu'on lit ce texte en regardant le deuxième Adam, qui est Christ, on comprend que Christ quittera les cieux et descendra pour s'attacher à une femme. Et là, la femme, c'est l'Église. Ce n'est plus une femme de chair. Et ensemble, ils formeront un et ils vont pouvoir créer. Et la création, ce sont les enfants de Dieu. Important d'avoir ça en arrière-plan. Il faut aussi avoir en arrière-plan Ésaïe 64, où il est dit que Dieu fera une grâce particulière. Et Christ vient dans Luc 4, il ouvre dans le temple le rouleau et il explique que désormais la grâce dont parle Ésaïe 64, c'est maintenant. La difficulté, c'est que les Juifs ont eu du mal à comprendre tout ça. Ils étaient déjà extrêmement bouleversés par le peu de choses que Christ avance. Cette grâce qui se manifeste dès la naissance du Christ, puisque nous voyons que c'est l'action de l'Esprit Saint, cette action dont des fois le monde se moque en disant « Ah, il est né de l'Esprit Saint », mais c'est une action totalement salvatrice pour nous, puisqu'il faut comprendre par là que le plan de Dieu prévu dans Joël 2, je n'habiterai plus dans des temples bâtis de mains d'hommes, j'habiterai désormais dans des corps. Le premier corps dans lequel Dieu habite, c'est Jésus-Christ. C'est ainsi qu'aujourd'hui, l'Esprit Saint peut habiter en nous. Puisqu'il a habité en Christ, il fallait qu'il passe par le premier de la création qui est Christ. Il faut comprendre ces choses au niveau spirituel. Et voyez-vous, dans l'Ancien Testament, Dieu n'habitait pas dans des hommes. On peut prendre deux exemples. Élie, le prophète, qui a été pris par le Seigneur dans 2 Rois 2, vous verrez que Dieu habitait dans son manteau. C'est ce qu'il a laissé à Élisée. Moïse, celui qui va sortir le peuple d'Égypte, Dieu n'habitait pas en Moïse, mais il habitait dans le bâton de Moïse. Mais désormais, la grâce, c'est que Dieu n'habite plus à l'extérieur de l'homme, il habite à l'intérieur de l'homme quand celui-ci a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce matin, nous allons aller par étapes. Je vous rappelle que toutes les prédications que nous faisons ici, vous avez la possibilité de les reprendre par audio sur le site de l'Église, tout simplement, parce qu'à un certain moment, vous allez peut-être noter, ça va peut-être aller vite. Mais dans le site de l'Église, vous avez toutes les prédications qui sont faites et vous pouvez reprendre ces prédications pour votre édification. Peut-être qu'il y a des textes que vous avez eu du mal à noter. Il est midi, c'est le milieu de la journée. Vous voyez, la particularité avec Christ, c'est que, encore une fois, même la virgule a du sens. Il est midi, Christ est au centre. Il est entre deux brigands, comme d'habitude. Christ est au centre. Quoi que le monde veuille, Christ restera au centre. Jésus restera au centre. Il est midi et son agonie va durer 3 heures.
Pendant 3 heures, le monde est obscurci. On peut entrer dans le chiffre 3 qui rappelle Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais on ne va pas entrer dans le chiffre 3, sinon ça risque d'être compliqué. Le ciel est obscurci et cette étape de la mort du Christ est une étape prophétique, puisque si vous lisez Amos 8, verset 9, il est dit « En ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. » Christ annonce sa mort aux disciples, ils sont perturbés. Mais pourquoi sont-ils perturbés? Parce que la plupart ne connaissent pas bien les textes de l'Ancien Testament. Mais même les pharisiens qui connaissaient les textes n'arrivent pas à faire le lien. C'est brutal comme ça. Faire le lien entre ce que dit Christ et ce qui se produit. Tout ce qui se produit dans la mort de Christ a déjà été annoncé. C'est déjà écrit par la bouche des prophètes. Encore faut-il écouter. C'est le reproche que Dieu fait à Israël. Mes chers amis, je m'arrête un instant là-dessus. Dieu a reproché à Israël de ne pas écouter sa parole. Dieu nous reproche à un certain moment de ne pas écouter sa parole. En hébreu, écouter signifie schéma. Et vous voyez, dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul dit, « Même la nature nous enseigne. Comprenez-vous pourquoi les oreilles viennent après les yeux et la bouche ?» Et pourtant, c'est les oreilles qui sont plus importantes. Nos yeux sont mis en avant. C'est ce que nous regardons qui nous attire. Or, que Dieu te rappelle que ce que tu entends, ce qui est dans sa parole, c'est ça qui est important pour ton âme. Écoute la parole de Dieu. Sois obéissant à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ne t'éloigne pas, comme le dit Josué, ne t'éloigne pas de sa parole, parce que son sentier, c'est sa parole. Cette parole a autorité dans nos vies. Ensuite, il y a un événement tragique. Christ dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Il crie, Élie, Élie, il appelle Élie. Ceux qui sont là sont consternés. Ils se disent, mais c'est la même personne qui a ressuscité des gens. C'est la même personne qui a guéri des gens. C'est la même personne qui a nourri 5000 personnes. Je rappelle, petite ouverture, dans les 5000, on ne dit pas quelqu'un a cuisiné après, hein. Donc ceux qui pensent que Christ ne sait pas faire à manger, la manne du désert, c'était mieux que la manne, ils ont mangé. C'est le même qui a fait toutes ces choses et c'est le même qui se retrouve à la croix, qui appelle Élie. Ils se disent, mais finalement, le Élie dont il nous parlait, il ne l'a pas en lui puisqu'il est sur la croix en train de mourir et Élie n'intervient pas. Mes chers amis, comprenez bien que lorsque Christ appelle Élie, il cite un texte, psaume 22, 2. Ceux qui sont là n'arrivent même pas à comprendre que c'est la parole qui est en face et il est en train de citer des textes pour des gens. Même sa mort devait être édifiante pour les Juifs. Mais ils n'ont toujours pas compris. Vous savez, beaucoup d'hommes ont du mal à comprendre Christ. Sans l'action du Saint-Esprit, c'est extrêmement difficile de comprendre Christ. Mais lorsque Christ appelle Élie, c'est parce que désormais il a pris notre place. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que lorsqu'ils étaient à la croix avec Barabbas, Barabbas c'est nous, les pécheurs. Et il y a eu un changement sur cette croix. Nous avons quitté la croix, nous avons quitté le jugement pour que Christ prenne la place. Et désormais Christ est revêtu de l'impureté de l'homme. Du péché qui était un voile avec le Seigneur. Vous savez, Dieu est trois fois saint. On ne peut pas se présenter à lui avec nos iniquités. Un homme croyait pouvoir se présenter à Dieu avec tout ce qu'il avait fait de mal, comme si Dieu ne pouvait pas le voir. C'est Caïn. Caïn tue son frère et il dit à Dieu, « Mais tu me demandes où est mon frère ? C'est moi le gardien de mon frère ?» Mes chers amis, n'ayez pas cette tentation de vous présenter vous aux hommes avec ce que vous avez caché. Mais ne vous présentez pas à Dieu avec ce que vous avez caché. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ce Dieu-là est celui qui te connaît avant même que tu sois né. Ce Dieu-là est celui qui connaît les choses, les profondeurs que tu ne peux imaginer. Ce Dieu-là reviendra dans sa gloire. Ensuite, on lui apporte du vinaigre. Ça aussi, c'est prophétique. Psaume 69, 21. « Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Qui a besoin d'être abreuvé ? Nous et non lui. » Ce que la femme samaritaine a compris. La femme samaritaine a compris. En fait, ils viennent, ils veulent abreuver Jésus. Mais ils ne comprennent pas qu'en face d'eux, ils ont l'eau vive. C'est Jésus qui te donne à boire. Toi, tu ne peux pas donner à boire à Jésus. Quand il a dit à la samaritaine, donne-moi à boire. Mais quand ils ont commencé à discuter, elle a compris que c'est elle qui avait soif et que celui qui était en face était celui qui a l'eau vive. Cette eau, il nous la donne. Et je vous rappelle que dans Jean 3, le Seigneur dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, naître d'esprit, c'est le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit qui vient sur la personne. Mais naître d'eau, effectivement, il y a le baptême physique, mais il y a aussi le baptême spirituel. Pourquoi ? Parce que l'eau, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut beaucoup la lire. Il faut beaucoup la lire, c'est-à-dire que sur la parole de Dieu, il faut qu'il y ait une gourmandise en nous. Dans Ézéchiel, le Seigneur dit au prophète, mange ce livre. Il faut le manger, ce livre, de Genèse à Apocalypse. Beaucoup qui nous ont précédés dans la foi connaissaient pratiquement ce livre par cœur. C'est une surprise. Aujourd'hui où nous sommes en plus de grâce, avec l'accès à la Bible, le malin met une réticence à la lecture de la Bible. Remarquez, quand vous allez faire un programme de lecture de la Bible, très vite, vous allez retrouver des embûches à ce programme. Mais si vous faites un programme de suivi des feux de l'amour sur TEF1, vous ne trouverez aucune embûche. Mais à partir du moment où il s'agit des bonnes choses, des vraies choses, qui vous nourrissent pour l'éternité, le malin vient pour mettre des embûches. Ensuite, toujours pendant la mort du Christ, le voile est déchiré, le voile tombe. Mais pour comprendre le voile, il faut aller dans Exode 26, 31 à 33. Tu feras un voile en laine de pourpre violette, de pourpre écarlate, de rouge éclatant et de fin lin retors. Et tu feras broder des chérubins par artisan. Tu le suspendras à quatre piliers d'acacia, plaqués d'or, munis de crochets d'or et posés sur quatre socles d'argent. Tu fixeras le voile sous les agrafes. C'est là, derrière le voile, que tu déposeras le coffre contenant l'acte de l'alliance. Ce voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Le tabernacle que Moïse avait fait sur recommandation du Seigneur, sur mesure, en obéissant à la lettre à ce que Dieu avait dit. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. On ne pouvait pas pénétrer dans le lieu très saint. Beaucoup ont perdu la vie. Mais ce voile s'est retrouvé déchiré à la mort du Christ. Mais c'est pour que toi et moi, nous ayons accès au Père. Cet accès que nous n'avions plus, cet accès que le malin avait interrompu, en faisant entrer le péché, en faisant entrer la mort. Vous voyez, l'homme, lorsqu'il naît, au bout d'un certain moment, il se pose des questions sur la mort. Ensuite, le monde lui présente la mort comme quelque chose qui est pour les autres. Donc, il va grandir, il va vieillir, sans se soucier de la mort. Mais à un certain moment, la mort vient frapper et l'homme n'est pas prêt. Et l'homme a peur de la mort. Bien-aimé, ce que j'aime dans ce livre, c'est que celui en qui je crois m'a précédé dans la mort, et désormais dans ce chemin-là, nous ne pouvons plus avoir peur, puisque celui en qui je crois est passé par là et revenu. C'est ça le plus important. Il est revenu. Mahomet est mort, hein, on peut aller voir sa tombe. Bouddha est mort, on peut aller voir sa tombe. Ceux qui le suivent iront comme lui. Mais celui qui suit Christ, à cette espérance que tu verras la gloire de Dieu, même dans la mort. Désormais, mes chers amis, si tu avais cette crainte de dire, est-ce que je vais mourir ? Oui, peut-être tu vas mourir. Peut-être que Christ viendra avant. Mais dans tous les cas, que ta mort, tu glorifies le Seigneur. Je suis venu te dire que même dans la mort, Christ ne sera pas loin de toi, puisqu'il est passé par là. Celui en qui nous croyons, c'est celui-là qui nous emmène dans des lieux obscurs où lui met la lumière. L'apôtre Paul, à la fin de sa vie, a dit, la mort m'est un gain. Quand je meurs, je gagne. Je serai encore plus proche de mon Dieu. Pour l'instant, son esprit est en moi. Mais quand je meurs, je vais là où est parti mon Seigneur. Et d'ailleurs, voyez-vous, pour nous qui avons choisi de suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur, tout ce que Jésus a fait devrait être ce que nous souhaitons avoir. Puisque je suis sur les marches du Christ, on dit je veux suivre Christ et abandonner le péché. Mais pour suivre Christ, si je travaille, c'est que je cherche un travail de charpentier. Vous êtes d'accord avec moi ? Si je meurs, c'est que je veux aller mourir à la croix. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais qui suivez-vous au fond ? Sinon la question, on peut vous la poser, qui suivez-vous ? Est-ce que vous suivez le Jésus dont parle la Bible ? Ou est-ce que vous vous êtes fait un Jésus vous-même ? Vous comprenez ? Tout ce que le Christ a fait, il a nourri 5000 personnes. Bien-aimés, avez-vous nourri 5000 personnes ? Eh oui, marchons derrière Christ. En réalité, par ses écrits, ne cherchons pas à dévier. Si j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je suis Jésus. Les apôtres l'avaient compris. C'est à ce moment-là qu'ils sont devenus forts. Parce que l'Esprit de Dieu est venu en révélation à des personnes qui ne comprenaient pas. Un des épisodes qu'a subi l'apôtre Pierre, c'est quand il était pêcheur. Quand Jésus monte dans sa barque pour prêcher, Jésus finit de prêcher, il lui dit « Maintenant tu peux pêcher ». Pierre se dit « Bon, il est bien gentil ce monsieur, il a prêché, les gens l'ont écouté, mais là c'est du délire. Toute la nuit j'ai tenté de pêcher, je n'ai rien eu ». Christ lui dit « Jette le filet à droite ». Avec Jésus, il est toujours très précis. Jette le filet à droite. Et lorsque Pierre jette, le filet doit presque se rompre. Vous voyez que ce que l'homme, l'échec de l'homme, est une épreuve qui doit faire grandir. Mais lorsque cette épreuve arrive, dis-toi bien que celui qui te sortira de ton échec, c'est Jésus-Christ, en qui il n'y a aucun échec. Les hommes ont cherché à trouver l'échec du Christ. Vous entendez beaucoup d'hérésies. Christ a eu des enfants avec Marie de Magdala. Beaucoup d'hérésies. Parce qu'on ne trouve pas. Et d'ailleurs, remarquez, tous les hommes qui cherchent à destituer Christ de son trône en s'élevant contre sa parole, ils ne veulent pas qu'on parle de la Bible. Dès que vous commencez à lire un des évangiles ensemble, oh non, ne lisons pas, surtout pas la Bible. Parce que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Désormais, le voile est déchiré, la réconciliation est là, et même les soldats reconnaissent que cet homme était fils de Dieu. Même les soldats reconnaissent à cette mort. Je ne connais pas beaucoup de gens, quand ils sont morts, il y a eu des résurrections. Moi, je n'en connais pas beaucoup. Il y a peut-être un exemple dans la Bible que vous connaissez peut-être, non ? Élisée. Lorsqu'Élisée est mort, il y a eu un mort qui a touché les os d'Élisée, il s'est réveillé. Il faut comprendre que tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament annonce Christ. C'est une façon d'annoncer celui qui vient, qui ressuscitera un grand nombre. Hébreux 10, 15 à 22. C'est là ce que le Saint-Esprit nous confirme de son côté. Car il a dit d'abord, « Mais voici quelle alliance je vais établir avec eux après ces jours-là. Dit le Seigneur, je placerai mes lois dans leur cœur et je les graverai dans leurs pensées. » Puis il ajoute, « Je ne tiendrai plus compte ni de leurs péchés ni de leurs fautes. Or, lorsque les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande pour les ôter. » Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Dans l'épître de Jean, il y a une conversation poignante du Christ qui éprouve beaucoup d'émotions avec son disciple. Ça, vous pourrez le lire. Christ dit à Jean, « Voici ta mère, et à Marie, voici ton fils. » Là aussi, difficulté de compréhension. Les catholiques ont placé ce texte pour dire, « Voilà Marie, c'est la mère. » Difficulté de compréhension. Alors que Christ est en train d'expliquer que désormais, par lui, ce matin, nous sommes unis en Christ. Nous sommes ici parce que Christ est allé à la croix. Donc, on peut dire, voici ton fils, voici ta mère. C'est une unité. Et d'ailleurs, dans la prière sacerdotale, Jean 17, Christ dit qu'il est uni au Père et que désormais, les enfants sont unis à lui. Nous sommes unis par Christ. Un conseil que Paul donne à Timothée, au jeune Timothée, 1 Timothée 5, 2, « Ne rudoie pas un homme âgé, mais encourage-le comme s'il était ton père. Traite de la même manière les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les plus jeunes comme des sœurs en toute pureté. » En toute pureté. Voyez-vous, la maison de Dieu devient une famille. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans Apocalypse, on nous rappelle que dans la maison de Dieu, il y a plusieurs chambres, puisqu'il y a plusieurs enfants. Nous sommes désormais les enfants de Dieu. Et dans ces enfants, il y a des pères, il y a des mères, il y a des enfants. Mais tout ça, ça constitue la famille de Dieu. Et cette famille constituée que Dieu a pris par son sang, mais c'est une famille prophétiquement déjà annoncée, voyez-vous. Lorsque vous lisez Genèse 47, 12, vous voyez que Jacob et ses fils, les 12 tribus d'Israël. Vous comprenez que déjà sous Jacob, lorsque Joseph sort de la maison et que la famille le suit, on annonce, c'est une préfiguration de ce qui va se produire à la croix avec Jésus et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pour ça que Christ dit, lorsque tu lis les Écritures et que tu ne vois pas Jésus, demande à l'Esprit Saint de t'aider. Parce que Jésus est partout dans les Écritures. Tout est accompli, dit-il. Tout est accompli. On peut revenir à Ésaïe 53. Ce qui avait été dit s'accomplit à la croix avec celui qui a pris les péchés du monde. Et il dit, tout est accompli. La mission est accomplie pour toi et moi. Et ce matin, si dans l'assemblée, il y a des personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, la parole de Dieu te dit que Dieu t'a tant aimé qu'il a envoyé son Fils pour que tu ne périsses pas, pour que tu aies la vie éternelle. Voilà l'amour manifesté de Dieu. Un amour inestimable pour chacun d'entre nous. Mes chers amis, s'il fallait qu'on s'arrête pour relater tous les péchés que nous avons faits dans nos vies, oh Seigneur, qu'est-ce que c'est horrible! Qu'est-ce que c'est horrible! Comment peux-tu aimer de telles créatures? Mais voilà l'amour de Dieu manifesté. Le Seigneur t'aime, ne repars pas sans avoir cette phrase. Je suis venu te dire, le Seigneur t'aime malgré tes péchés, malgré les blocages qu'il y a dans ta vie. Le Seigneur t'aime et il veut venir à ton aide. Pourquoi refuses-tu ton aide? Christ à la croix pleure, non pas pour ses souffrances, mais vous comprenez, il pleure pour nos souffrances. Il prend nos souffrances, mais quel Dieu merveilleux avant nous. Gloire à toi, Jésus. Je remets mon esprit entre tes mains. Je remets mon esprit entre tes mains. Psaume 31:6. Il meurt en citant des psaumes. Est-ce un homme? C'est impossible. C'est impossible de citer autant de textes en mourant. Le Seigneur est glorifié dans ce que fait Jésus. Il meurt seul à la croix. Mais pourquoi est-il seul à la croix? Pourquoi Dieu s'est-il éloigné de lui? Pourquoi les condamnations sont tombées sur lui? C'est pour que toi et moi, nous ne puissions plus mourir. Voyez-vous la grâce du Père? C'est celle-là. Acte 3:15. Ainsi vous avez fait mourir l'auteur de la vie, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. L'auteur de la vie est mort, mais Dieu l'a ressuscité. Il y a des résurrections lorsque Christ est mort, et ces résurrections, en fait, étaient prophétiques, puisqu'encore une fois, c'était prévu dans l'Ancien Testament. Et on voit la surprise, la mort de Joseph. Je ne sais pas si vous connaissez l'épisode de la mort de Joseph. Dans Genèse 55:25, Joseph fait jurer aux fils d'Israël en disant « Quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici. » C'est bizarre ça. Pourquoi Joseph dit-il que ses ossements ne doivent pas rester en Égypte? Parce que Joseph, prophète, ne fait qu'annoncer la résurrection des morts. Sa mort, son sang versé nous rachète. Celui qui place sa confiance en Dieu, par son sang, nous avons accès au Père. Dans Genèse 3, Dieu tue un animal et il habille Adam et Ève. Il tue quoi? Un agneau. Vous avez chanté l'agneau immolé. Donc vous comprenez que le sacrifice du Christ, pour le comprendre, il ne faut pas mettre le temps. Enlevez le temps et vous allez comprendre que Christ est sacrifié depuis le début. Parce que les holocaustes que faisaient les Juifs, ça ne peut pas monter jusqu'à Dieu. Connaissez-vous un animal parfait qu'on peut tuer et qui va monter jusqu'à Dieu? Le seul animal parfait, c'est Christ qui devient un agneau. Donc depuis le début, c'est le sang du Christ qui intervient. Nous sommes unis à sa mort par le fait de croire en lui et nous obéissons. Nous obéissons. Nous sommes unis à sa mort par le fait de croire en lui. Et dans Romains 6, on voit qu'à travers le baptême, nous mourons avec Christ. Et en fait, à la croix, ce qui doit mourir, ce sont nos péchés. C'est ceux-là qui doivent mourir à la croix. Et ce matin, j'aimerais te dire, s'il y a un péché que tu n'as pas confessé au Seigneur, je t'invite à le faire parce que ce péché doit mourir à la croix. Ce péché ne doit plus te suivre au nom de Jésus. La Sainte Cène nous rappelle aussi la mort du Christ. 1 Corinthiens 11. L'apôtre Paul explique la Sainte Cène. Mais vous savez, c'est merveilleux de voir de la bouche des enfants l'interprétation qu'ils ont. Ma dernière fille m'a posé une question la dernière fois. Elle m'a dit, papa, je sais que quand vous prenez la Sainte Cène le dimanche, c'est du jus de raisin. Mais dis-moi une chose. Quand les apôtres prenaient la Sainte Cène, ils buvaient vraiment le sang de Jésus? Gloire à l'Éternel. Parce que vous voyez, quand Jésus dit « Laissez venir à moi les enfants », c'est une grâce. Parce qu'effectivement, quand vous prenez ce jus de raisin, c'est le sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau que nous sommes en train de prendre. Et il faut se souvenir de tout ce que Christ a vécu pour nous avant de prendre la Sainte Cène. C'est un véritable rappel. Que ce sang qui a coulé, voyez-vous, le sang a coulé et même on a touché la côte de Christ. Ça vous rappelle que le soldat qui lance la flèche sur la côte rappelle Adam qui dort pour que Dieu prélève une côte pour faire Ève. Ça rappelle donc que l'Église est née à travers le sang du Christ. Mon ami, je suis venu te dire que ici tu es dans la maison de Jésus-Christ, qui a versé son sang pour toi, et que désormais la condamnation ne pèse plus sur toi. Je suis venu te dire que quand tu es dans la souffrance dans ta maison, Christ pleure deux fois plus que toi, parce qu'il ne veut pas te voir souffrir. Je suis venu te dire que ce Dieu-là qui est mort à la croix pour toi, c'est ce même Dieu qui sera avec toi quand tu vas mourir. N'aie pas peur de la mort. Je suis venu te dire qu'il est possible que ce Dieu revienne avant ta mort. Vas-tu finir comme Enoch ou Élie, qui sont transportés par les anges, mais qui sont aussi une figure de la résurrection du Christ, et Christ monte au ciel. Vous vous souvenez, Christ monte au ciel devant les disciples. C'est de la même façon qu'Élie et Enoch sont montés au ciel. Mais je suis venu aussi te dire qu'il est possible que tu meures. Étienne est mort, lapidé. Mais quelle belle mort, surprenant. Ils vont avoir peur. Étienne est mort, lapidé. Quelle belle mort! Mais pourquoi une belle mort? Mais parce qu'il a vu le trône de Dieu. Il a vu le trône de Dieu. Ce que nous ne verrons qu'après, lui l'a vu avant de mourir. Voilà la grâce de Dieu. Je suis venu te dire que Dieu t'a fait grâce et que désormais, Dieu te considère comme son enfant, comme son ami. Désormais, si tu as placé toute ta confiance en lui, tu as une place dans sa maison, tu as une place dans sa Jérusalem céleste. Et c'est pour ça que le prophète David a dit dans le psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, est-ce que j'ai peur ?» Non, ta houlette et ton bâton sont avec moi. C'est-à-dire que Dieu est désormais avec tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Nous pouvons acclamer la mort du Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.